Merci beaucoup. Je vais voir si j'arrive. Ah, super. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Je vais vous présenter Arocha à la fin de mon message, mais juste en deux mots. Arocha est une organisation chrétienne qui travaille pour la conservation de la nature et pour l'éducation à l'environnement. Et moi, je suis vraiment ravie de travailler pour cette association. Et je vais vous présenter ça un peu plus en détail après. Mais d'abord, mon thème pour ce matin, ce sera de vous parler de comment est-ce qu'on peut inclure la création dans notre vie spirituelle. Alors, j'ai intitulé cette présentation « Prier, louer et agir pour la création ». Mais tout d'abord, première question, pourquoi est-ce que je viens vous parler de ça à l'église ? Alors peut-être pour beaucoup d'entre vous c'est évident, et pour d'autres vous vous dites mais c'est pas un peu hors sujet, est-ce qu'on n'entend pas déjà un peu trop parler des sujets de l'environnement en ce moment? Est-ce que vraiment c'est un sujet qui est important pour l'Église, pour les chrétiens et par rapport à notre foi? Alors nous les chrétiens, c'est vrai qu'on a un rapport un peu avec l'écologie qui est parfois un peu difficile. Déjà, dans un premier temps, on peut dire que on a parfois un peu du mal à s'identifier avec ces écolos qui ont peut-être même un peu un culte de la Terre, qui voient la Terre presque comme une déesse, comme Gaïa, qui disent que bon, tous les animaux, tous les hommes, on est tous pareils, on est tous égaux, on a tous les mêmes responsabilités, tous les mêmes droits. Alors parfois on peut aussi trouver que il y a beaucoup de catastrophisme et que nous on a un Dieu d'espérance. Alors on a du mal à s'identifier avec tout ça. Une autre attitude, c'est aussi de se dire l'écologie c'est chouette, c'est important, c'est bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, parce que c'est vrai que c'est important. Moi c'est pas vraiment, c'est pas mon truc, mais c'est bien que vous fassiez ça parce que c'est important. Mais moi, c'est pas, chacun ses dons. Moi, c'est pas vraiment ça. Je pense que je suis pas appelée à ça. C'est pour certains, mais c'est pas pour moi. Pour d'autres, on pourrait se dire aussi, est-ce que c'est vraiment pertinent de parler de ça à l'église? Parce que, est-ce que ça devrait être notre priorité? Nous, notre priorité, c'est plutôt les âmes. On est là pour sauver les âmes. C'est ça qui est important. Et puis, il y a des gens qui meurent dans le monde. Il y a des pauvres. Est-ce qu'on devrait vraiment s'intéresser aux hérissons? Quand il y a des gens qui connaissent pas Dieu, ou des gens qui sont en train de mourir de faim, est-ce que c'est vraiment pertinent? Alors moi, ce matin, je voudrais vous dire que si, c'est pertinent, que c'est vraiment une partie intégrale de l'Évangile, et que je pense que c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, j'ai séparé dans ma vie. J'ai toujours été intéressée par l'environnement, je fais des études dans l'environnement, mais c'est vrai que c'était séparé de ma foi. J'avais ma foi d'un côté, et de l'autre côté, j'avais ce que je ressentais pour la planète, le fait que je voulais prendre soin de la planète, etc. Et c'était deux choses que je gardais complètement séparées. Et pourtant, notre Sauveur, il est infiniment grand. Il est en effet notre Sauveur, mon Sauveur Jésus, pour moi, mais il n'est pas juste mon Sauveur. Il est aussi le Créateur de toute la Terre. Notre Dieu, il tient toute la création dans ses mains. Et il a un amour infini pour toute sa création. Évidemment, nous, on a une place particulière. On a été créés en son image. On n'est pas juste comme les autres animaux de la terre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, il n'a pas cet amour pour toute sa création. En Genèse 1, verset 31, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et c'était très bon. Ce n'est pas juste nous, les humains, qui étions la cerise sur le gâteau, qui faisait que toute la création était bonne. Il n'a pas créé tout le reste de la terre juste pour pouvoir nous placer là, comme maître et dominateur sur cette planète. Dieu, il aime toute sa création. Et elle n'est pas à nous, cette terre. Elle appartient au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle contient, elle appartient au Seigneur. Psaume 24. Là, on commence un peu la période de carême, où on se rapproche de Pâques, et puis on commence à penser encore plus en fait à ce que Dieu, à ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et Ben, j'ai vraiment été interpellée. Nous, on a un directeur de théologie chez Arocha qui est venu en Suisse en novembre pour faire une série de conférences justement sur la planète et pourquoi se soucier de la Terre, ou est-ce qu'on ne devrait pas se soucier des hommes. Et en fait, il nous a expliqué comment, quand il faisait ses études de théologie, en fait, il était retombé sur ce verset qu'on a tous lu des milliers de fois, qui dit qu'un Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ça, c'est un verset qui est clé pour nous. Et je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi et comme Dave Bouclès, mais moi, j'ai toujours lu ce verset en disant, bah, Dieu, il nous a tant aimés. Et c'est vrai qu'il nous a tant aimés. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de notre temps, en fait, à essayer de capter cet amour que Dieu il a pour nous, à vraiment à se l'approprier, à comprendre à quel point Dieu nous aime et qu'il nous a donné Jésus sur la croix pour nos péchés. Mais Dieu, il a aussi voulu réconcilier avec la création, pas seulement avec nous. C'est parce que c'est le monde en entier, c'est le cosmos en grec. C'est pas juste nous, c'est toute sa création. Et je pense que quand on arrive à saisir, en fait, à quel point Dieu aime sa création en entier, nous, évidemment, bien sûr qu'il nous aime d'une façon particulière, mais toute sa création, alors, en fait, on peut être vraiment touché au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit. Et là, ça, je trouve que ça change tout. Pour moi, ça a tout changé. Parce que ça a été tellement plus profond que juste me dire « Ah oui, il faut que je fasse attention à la planète, oui, il faut être respectueux, oui, il faut trier ses déchets, il ne faut pas trop, etc. » En fait, ça me touche de façon plus en profondeur. Et ça permet aussi de ne pas pouvoir être désengagé, parce que c'est la création de Dieu, c'est sa création, et il l'aime. Hein, et donc, c'est notre responsabilité en tant que chrétien d'en prendre soin. Alors quand on pense à tout ça, moi la première chose que je me dis, ben, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut changer notre façon de faire, il faut changer nos modes de vie. Mais je pense que la première chose à faire, ben, c'est prier. Alors pas seulement prier, ça ne veut pas dire prier et pas agir, mais d'abord prier. Quand on prend un engagement pour la planète, moi je dirais la première chose à faire, c'est prier. Alors prier dans nos églises. Je ne sais pas si vous priez pour la planète, pour la création dans cette église, mais parfois quand on essaye au début de prier pour la planète, en fait on ramène toujours ça à nous. En fait on prie pour la planète, mais en fin de compte c'est pour nous les hommes. Je vous invite vraiment aussi à remettre vos prières, hein, juste pour la création et pour ce qu'elle devient au Seigneur de façon large, de prier, ben oui, de prier pour toute la pollution, pour tous ces plastiques, de prier pour nos glaciers, de prier pour nos politiciens qui prennent des décisions, et juste de prier pour la biodiversité, pour prier pour les animaux, pour la faune. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très émotionnel. Pour moi, c'est très facile de pleurer. Moi, je vous invite à pleurer avec l'Esprit de Dieu en entendant les soupirs de la création et d'implorer sa miséricorde. Vraiment de prendre ça en main et de se dire, ben voilà, ça c'est quelque chose d'important et moi, je voudrais commencer vraiment à prier pour ça. Ça ne veut pas dire arrêter de prier pour les pauvres, arrêter de prier pour les âmes. Ça veut dire, en plus de ce qu'on fait déjà, je vais rajouter un petit truc sur la liste. J'adore ce verset. En psaume 36, tu secours, ô Éternel, les hommes et les bêtes. En fait, c'est partout dans la Bible. Quand on commence à chercher, c'est partout dans la Bible. À quel point Dieu, pour lui, c'est important. Tout est important. Vous savez que la perte de la biodiversité, c'est vraiment un sujet qui nous touche de manière vraiment sévère. Hein. On n'entend pas beaucoup parler du réchauffement climatique en ce moment, c'est un peu le gros sujet, et puis c'est sûr que c'est un sujet énorme. Mais la biodiversité, c'est aussi, ben, c'est lié, et puis c'est, Bah, c'est toute la création de Dieu au niveau, hein, au niveau de la faune, au niveau, et puis de la flore aussi d'ailleurs. Et donc il y a un rapport de WWF qui est sorti en 2018, hein, qui était vraiment très alarmant, qui montrait que depuis 1970 jusqu'en 2016, il y avait 60% de déclin de la faune. C'est énorme. Et il s'attendait, donc, dans ce rapport qui était donc, en 2018, à 67% d'ici 2020. Non, je n'ai pas les chiffres encore pour 2020, mais un des points qu'ils ont souligné dans ce rapport, c'est que nous sommes la première génération à avoir une vision claire de la valeur de la nature et de notre impact sur elle. Mais nous sommes sans doute la dernière qui puisse agir pour inverser la tendance. Donc ça, c'était en 2018, et ils ont conclu qu'entre maintenant et 2020, ce sera un moment clé dans l'histoire. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait beaucoup de choses entre 2018 et maintenant. Mais je pense que déjà, si nous les chrétiens, on se levait en prière et en action, je vais y venir, ça peut faire une vraie différence. Vous savez qu'il y a une espèce sur quatre qui est en risque d'extinction. Ça, ce sont des chiffres de l'Union internationale de conservation de la nature. Vous voyez, 40% d'amphibiens, 34% des conifères, 33% des coraux, 31% des requins et des raies, 27% pour un bon nombre de crustacés, 25% des mammifères, 14% des oiseaux. On a là un vrai sujet de prière quand on se rend compte que ça, c'est précieux pour Dieu. Que ces animaux-là aussi, ils ont de l'importance. On sait qu'ils ne tombent pas un passereau par terre sans que notre Père ne le sache. Je vous invite d'ailleurs à relire ce passage dans Job, que j'ai relu, en fait j'ai relu ça il n'y a pas longtemps, et il est extraordinaire, où il parle de l'hippopotame et du crocodile, je crois. On ne sait pas exactement, c'est pas hyper clair, mais on pense que c'est l'hippopotame. Regarde bien ce monstre, l'hippopotame. Je suis son créateur comme je suis le tien. Et d'ailleurs, dans ce verset, il dit aussi, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, son créateur. Il parle d'un chef-d'œuvre. C'est excellent. Et Jésus, il nous a enseigné à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Nous, les chrétiens, nous avons une vision d'un avenir qui est plein d'espérance. Pour un temps où le royaume de Dieu et son autorité seront rétablis dans toute la création. Je vous invite vraiment à garder dans nos prières, dans votre vie de prière, cette vision d'un monde transformé, tout en reconnaissant l'agonie qui a lieu maintenant. En fait, c'est cette dualité entre l'espérance et le fait que... En effet, nous, on a de l'espérance. On ne va pas tomber dans ce catastrophisme. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir, qu'on ne doit pas prier, que l'on ne doit pas être actif. Ce verset dans Romains 8, verset 20 à 21. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est pas extraordinaire ça? Elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La création elle-même sera libérée. Ça, c'est notre message d'espérance. Quand on pense à la biodiversité, quand on pense à la nature, on ne peut pas s'empêcher de penser à Noé et à l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Genèse 9, verset 8. À 17, toute la partie. Verset, je vous invite à relire 8 à 17. J'établis mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants sur la terre. On oublie souvent ça. On pense à l'alliance avec nous. On pense beaucoup à nous, c'est normal. On pense beaucoup à nous. Mais c'est avec toute la terre. Rappelons-nous que Jésus est à la source de la création. Car c'est en lui, Colossiens 1, verset 16 à 20, verset 16, car c'est en lui qu'on a été créés toutes les choses dans les cieux comme sur la terre. Qu'il est le préservateur de la création. Tout subsiste en lui. Et qu'il est aussi le sauveur de la création. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils que son Fils a versé sur la croix. Voilà pourquoi dans nos prières, on a aussi cette espérance pour la création. Maintenant, je voudrais vous parler de louer le Seigneur pour la création, dans la création. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est relationnel. Il veut avoir ce rapport avec nous. Mais moi, je pense qu'il veut aussi restaurer le rapport qu'il y a aussi avec la création. Il nous a mis dans la nature, il a créé cette terre. Et il a mis en nous ce besoin d'avoir aussi un rapport avec la nature. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je pense à la louange, la première chose que je me dis, c'est chanter. On va chanter à l'église, on va louer le Seigneur, on va lire notre Bible, c'est aussi bon, voilà. Plein de façons de louer, mais la première chose qui me vient en tête, c'est chanter. Sauf que moi, je chante, mais c'est horrible. Mes enfants me demandent d'arrêter quand je leur chante des chansons. Donc, je ne sais pas si c'est une louange qui est vraiment adaptée pour moi, mais bon, je fais, ça va. Mais pour moi, en fait, louer le Seigneur, le meilleur endroit, c'est dans la nature. Parce qu'en fait, je suis tellement émerveillée par la création que je ne peux pas faire autrement que louer le Seigneur. Quand on est dans la nature, on voit la puissance, on voit la créativité, on voit le soin au détail. Quand on voit comment tout l'écosystème, tout travaille ensemble, en fait, on est plongé dans l'émerveillement. Et ça, en parallèle avec la lecture de la Bible, en fait, c'est puissant. Parce qu'en fait, ça touche tous nos sens. Ça touche tous nos sens en même temps. Ça touche notre intellect, mais ça touche aussi nos sentiments. On a aussi dans la nature tout un tas de leçons de foi, de leçons de vie. Juste en observant les choses, justement le passage que tu as lu tout à l'heure, Corinne, dans Job 12. Mais interroge les animaux sauvages, ils t'instruiront. Les oiseaux dans le ciel, ils te renseigneront. C'est tellement vrai, on a tellement de choses à apprendre. Aussi sur les cycles, sur... le sabbat aussi. La nature, elle nous enseigne tellement de choses. Et puis, c'est un lieu privilégié de rencontre avec Dieu. Je pense que vraiment, le petit exercice qu'on a fait ce matin, de fermer nos yeux et puis de s'imaginer dans la nature, moi, je vous invite vraiment à faire ça. À, si possible, aller dans la nature, vous installer quelque part où vous êtes juste subjugué. Et de recevoir, et puis d'écouter la louange autour de vous, d'écouter toute la planète qui loue le Seigneur. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Tellement vrai, tellement vrai. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut ne pas croire en Dieu juste en regardant dehors. Moi, j'habite près du lac, j'ai une chance inouïe, ça s'est pris de ma fenêtre. Vous avez vu les couchers de soleil en début de semaine, là? Vous avez vu un peu? C'est, je veux dire, c'est un artiste, hein? Le ciel proclame la gloire de Dieu. Chaque jour en parle au jour suivant. Ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. C'est un artiste. Et nous faisons une partie, une part entière de cette création. Alors j'en viens quand même à agir. Mais je vous encourage à agir, pas parce qu'il faut agir, mais à agir comme une partie de notre louange. Que quand on essaye de faire des choses pour la création, on le fasse par acte de louange. Trop souvent, en fait, les chrétiens, nous sommes assimilés à ce monde, à cette culture occidentale de la consommation. C'est vrai, on est plongé dedans. Moi, la première. Et pourtant, on sait, ne nous amassez pas des richesses sur la terre. On sait. Et si nous pensons vraiment que cette terre, elle appartient à Dieu et non à nous, alors notre mode de vie de chrétien, elle devrait être radicalement différente de celui de nos voisins. Elle devrait. Mais agissons par amour et par espérance, sans juger et sans se juger nous-mêmes, comme un acte de louange. Moi, au début, quand je me suis dit « Ah, mais oui, mais il faut que je change, ça va pas. » Je me suis sentie comme devant une montagne, ou comme au fond d'un puits. Je ne savais pas par où commencer. Et même, j'étais un peu tentée de laisser tomber en me disant bah, « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, franchement? Qu'est-ce que ça va changer ?» Mais ce n'est pas notre responsabilité de sauver la Terre. Ce n'est pas nous qui allons sauver la Terre. On a une responsabilité d'agir, mais ce n'est pas nous qui allons sauver la Terre. Donc, un pas à la fois. Et demandons à Dieu par où commencer. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et la garder. Quel est notre rôle? Quel est notre rôle? J'aime bien réfléchir à notre planète comme notre maison, mais dont on n'est pas les propriétaires, on est locataires. Ou en tout cas, on nous a prêté la maison. La maison, elle appartient à Dieu, la terre, elle lui appartient. Et nous, voilà, on doit en prendre soin. Notre rôle, ben, c'est d'en prendre soin. C'est de en fin de bail, qu'on puisse rendre une planète pas trop mauvais état. Alors bon, j'aime bien cette image, donc d'être en communion avec Dieu et que la nature appartient, elle appartient à Dieu. Et puis nous, on doit prendre soin de sa création. Mais vous savez que 20% des plus riches consomment 16 fois plus que 20% des plus pauvres. C'est énorme. Probablement plus. Et pourtant, ce sont les pauvres qui sont les premiers affectés, par exemple, par le réchauffement climatique qui est causé par les riches. Donc il y a une injustice ici. Une vraie injustice. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? On peut réfléchir à vivre plus simplement, déjà. Parce qu'on sait de toute façon que le contentement est une valeur évangélique. Et que les conforts et la richesse, ça apporte peu de sens et de satisfaction. Quand on fait des choix, quand on décide de ce qu'on fait, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire comme acte de louange dans nos actions. Vivre en contact avec la nature, moi je trouve que ça aide énormément au niveau de la motivation. en fait, de se reconnecter avec la nature. Parce que quand on connaît, on aime, et quand on aime, on protège. Je pense que parfois, on a perdu cette connexion avec la nature. Ce qui fait qu'on est désengagé, parce qu'en fait, on est déconnecté. Je vous invite à essayer de vous reconnecter avec la nature. On peut essayer de diminuer notre consommation en énergie, non renouvelable, nos voyages, nos transports, quand on peut prendre les transports en commun, essayer d'éviter de prendre l'avion, réfléchir à nos biens de consommation, essayer de favoriser tout ce qui est local, tout ce qui est saisonnier. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire par acte de louange envers cette planète. Et aussi de soutenir les décisions pour l'environnement. Une réorientation radicale, notre style de vie demande des décisions radicales. Et ça, je ramène ça aussi à la prière, de prier pour ces décisions. D'aller vers un changement de cœur. J'aime bien cette image, je pense que vous l'avez peut-être déjà vue dans le passé. On avait cette vision un peu égocentrique de la place de l'homme sur la Terre, d'ailleurs. J'aime bien que c'est l'homme qui est tout en haut et puis la femme, elle est juste en dessous avec les animaux. Et puis, il y a aussi, sinon, ceux qui sont le côté un peu éco, on peut dire écocentrique, ou voilà ce que je disais, le côté écolo, où on est tous pareils, on est tous égaux, on a tous la même chose, les mêmes responsabilités, les mêmes droits. Moi, je vous propose la dernière, qui est théocentrique, où Dieu, il a mis les humains dans une place particulière. On a une responsabilité particulière, on a une place particulière, mais c'est une place de responsabilité, de prendre soin de la création. Et donc, c'est notre appel. Et donc, ça fait partie entière de l'Évangile. C'est pas accessoire. C'est pas hors de propos. Je vous invite vraiment à ce qu'on puisse changer notre regard sur la création et sur nous-mêmes. Qu'on puisse passer de la nécessité à une vraie passion et de l'utilitarisme à la relation. Je voudrais maintenant juste vous présenter un petit peu à Rocha en Suisse. L'organisation pour laquelle je travaille. Vous avez peut-être déjà eu, je pense, une présentation d'Arocha. Et puis, je vais être en bas après avec un petit stand, donc je ne vais pas faire trop long. Mais vous n'hésitez pas à venir me parler, me poser des questions. Notre mission chez Arocha, c'est agir pour la préservation et la création, de la création et sa diversité. De rappeler que l'amour de Dieu s'étend à toute la création et de sensibiliser à l'émerveillement et au changement intérieur. On a 5 valeurs clés. Qu'on est chrétien, qu'on fait essentiellement de la conservation, qu'on met beaucoup d'importance sur les liens et la communauté, aussi les cultures, de travailler avec différentes cultures. Et l'autre aspect que je trouve très important, c'est la coopération. En fait, on ne veut pas non plus rester juste dans notre monde chrétien. En fait, on veut travailler avec d'autres associations, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. Voilà, d'être vraiment en coopération. On fait beaucoup de travail donc dans la conservation, tout ce qui est inventaire et suivi de la biodiversité dans les prairies sèches et les prairies humides d'ailleurs, les gestions des milieux et protection des espèces. On a un projet qui est un peu notre projet phare, qui s'appelle le projet PPS, pour les prairies et les pâturages secs. Et dans le cadre de ce projet, on fait intervenir des groupes de bénévoles pour travailler dans les... avec les agriculteurs pour restaurer des milieux, pour restaurer la biodiversité. Il faut savoir que les prairies sèches, ce sont des milieux qui sont très très riches en biodiversité, mais qui deviennent, il y en a de moins en moins forcément parce qu'il y a la culture intensive, etc. Il y a peu de place pour ces prairies. Donc tout ce qu'on peut faire pour préserver cette biodiversité, et ça c'est un moyen peut-être de se reconnecter avec la nature. Si jamais vous avez envie de venir avec un groupe entre 5 et 15 personnes. Ça peut être un groupe de maison, un groupe de jeunes ou juste 5 ou 15 personnes de votre église qui se disent « Ah oui, ce serait chouette de venir passer un après-midi à travailler pour la nature. » Je vous invite à nous contacter, on serait ravis de vous accueillir. On fait aussi beaucoup de travail avec l'éducation à l'environnement, avec des camps, des week-ends, des vacances, des expos, etc. Alors, je voudrais vous présenter aussi notre camp pour les 9 à 13 ans, quand Bible et Nature, qui a lieu à Crébérard. Donc, si vous êtes intéressé par ce camp pour vos enfants, n'hésitez pas à venir me parler ou à Alain, sinon. Alors, je crois que les infos ne sont pas encore sur le site pour cette année, mais vous pouvez aller voir déjà ce qu'il y a sur les camps des années précédentes. Et d'ici une ou deux semaines, ça sera sur le site. Donc, vous pourrez avoir les bulletins d'inscription, etc. On a aussi créé une exposition qui s'appelle Éco-Parabole, qui, en fait, nous montre comment, à travers les petits animaux, les petits détails de la nature, Dieu peut vraiment nous parler des valeurs de son royaume et nous enseigner sur la vie. Donc c'est vraiment un outil qui est très chouette. Si jamais vous avez une opportunité, ça pourrait vous intéresser aussi. Il y a aussi tout un tas de petits jeux, de petits ateliers qui vont avec. On édite aussi des brochures, donc on en a une qui est déjà sortie, donc c'est pour les animations pour les enfants, les 8 à 15 ans, et ça vous pouvez télécharger sur notre site, donc pour les écoles du dimanche, des choses comme ça, ou si vous faites des week-ends d'église, il y a vraiment des outils là-dedans qui pourraient vous servir. On va essayer d'en éditer d'autres, mais celui-là il est disponible gratuitement sur notre site. On essaye d'être présent aussi quand il y a des marches pour le climat, des choses comme ça. Aussi d'être avec d'autres associations, de faire partie un peu des discussions pour que les chrétiens soient aussi présents dans tous ces mouvements pour la planète. Je vous invite aussi, si vous aimeriez passer un week-end avec nous, on serait vraiment ravis de vous faire découvrir cette année là, dans la région de Val-de-Travers, dans la région de Neuchâtel. Donc c'est toujours le week-end de Pentecôte. Donc c'est vraiment des opportunités où on peut vivre cette communauté et ces échanges et découvrir la nature, voilà, avec des gens qui sont passionnés, qui peuvent nous faire découvrir. Moi je suis ingénieur d'environnement, donc je suis pas biologiste, je suis pas super calée pour tout ce qui est animaux, mais j'adore. Donc moi je me réjouis d'être entourée par quelqu'un, des gens qui savent tout sur les oiseaux, qui savent tout sur les plantes. Oui, j'ai vraiment hâte d'y aller. Et puis, si ça vous intéresse, on aura des infos en bas aussi. On travaille aussi avec d'autres projets, avec d'autres entités de Arocha, notamment au Pérou et au Liban. Donc, au Pérou, on travaille pour préserver et revaloriser les forêts sèches qui sont côtières au bénéfice des populations locales. Donc, ça, c'est vraiment un projet très important au niveau de notre travail. Et au Liban, on travaille sur la réalisation d'un parc naturel urbain qui permet de sensibiliser la population à la protection de la nature. Donc ça, c'est dans la vallée Béka. Sinon, à Arocha, en Suisse, on est une vingtaine de personnes, 20-25 personnes qui sont vraiment impliquées, on va dire. Mais on fait partie d'une grande famille. On est présent dans 22 pays. Avec au total à peu près 144 personnes équivalent temps plein. En fait, c'est souvent excusez-moi. C'est pas mon téléphone. On a beaucoup de personnes qui travaillent à temps partiel et énormément de bénévoles. C'est beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans l'association. Et si vous voulez aller regarder notre site ou le site d'Arocha International, il y a des tas d'études qui sont vraiment très intéressantes. Notamment, il y a une étude qui se fait en Méditerranée pour l'évaluation de l'impact des microplastiques sur les organismes vivants. En fait, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à aller regarder. Voilà, notre site, c'est arocha.ch, mais vous pouvez accéder à toutes les informations sur les autres Arocha aussi. Il y a plein de choses. Et juste pour finir, j'aurais voulu juste montrer une petite vidéo. Et après, j'ai fini. C'est très court. Elle est ouverte en bas, normalement. Il faut juste cliquer dessus. Il y a du son. Vous imaginez le son, c'est de la musique. Je vous remercie.